le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur France Culture pour le service protestant. Ce matin, je vous propose un temps de méditation et de réflexion autour des psaumes, ces prières poétiques de la Bible chargées de toute la palette des émotions humaines. Alors comment comprendre le sens des psaumes? Qu'est-ce qui fait leur particularité dans la littérature biblique? Nous en parlons de suite avec notre invité. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin le pasteur Daniel Schrumpf de l'Église protestante unie de France à Sèvres et Meudon.
Oui, et Ville-d'Avray.
Et Ville-d'Avray. Bonjour Daniel. Une petite question pour commencer notre émission sur les psaumes. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce livre, c'est quel genre d'écriture? C'est un texte qui date d'il y a combien de temps? Comment on peut situer un petit peu le livre des psaumes dans la Bible?
Alors, pour le situer physiquement, il suffit de prendre les deux pouces et le livre de la Bible et de prendre au milieu. Et quand on est au milieu, on tombe sur le livre de psaumes. Il est au cœur de la Bible. Après, pour le situer dans l'histoire, on est là dans pas mal de siècles avant Jésus, hein, entre 500, 600, 700, et des fois, il y a une tradition orale qui peut arriver et imprégner les psaumes qui vient peut-être d'avant. Voilà. Pour le style, on est plutôt dans... C'est des chants. Des chants. Psalmo, ça, il faut le dire, ça veut dire chanter en grec. Donc, on entend la corde qui vibre. C'est la corde du luth à 10 cordes, ou la corde du psalterion, la corde du piano aujourd'hui, la guitare. Et là, on a les psaumes qui nous sont parvenus dans leur texte. Mais ils ne nous sont pas parvenus dans leur mélodie. On a des annotations, mais c'est des annotations qui vont pas nous permettre de refaire la musique de l'époque. On a réussi à trouver des flûtes dans l'archéologie où on peut retrouver éventuellement la tonalité, la gamme, mais pas la musique. Donc il va nous falloir remettre de la musique sur les psaumes, et plein de gens s'y sont attelés depuis.
Comment ça peut parler aujourd'hui des paroles si anciennes, poétiques? Comment ça peut rejoindre l'homme contemporain?
Moi, ce que j'adore dans les psaumes, c'est que c'est une prière, une chant, sans clocher, sans dogmatique. C'est vraiment la prière archaïque du gars qui lâche une parole entre lui et Dieu sans chercher à faire des belles phrases. C'est un commencement de foi où tout est dit sans tabou. Tout est dit aussi bien dans la louange. Alors quand il est dans la louange, le gars, il y va jusqu'au bout. Quand il est dans la colère ou dans le ressentiment, ou même quand il n'est pas content contre Dieu, il le dit jusqu'au bout. La seule chose, c'est qu'il n'est jamais insolent envers Dieu. Et si jamais il n'est pas content, il va mettre un point d'interrogation à Dieu pour lui laisser la place pour répondre. Il va dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Point d'interrogation. Et le « pourquoi ?» va laisser à Dieu la place pour répondre. Il va lui dire « mais si je crève, Seigneur, la poussière pourra-t-elle te rendre grâce ?» Point d'interrogation. Et c'est à Dieu de répondre. Donc, le moment où il commence à être limite, pas très, un peu hérétique, faut le dire, eh ben, il laisse à Dieu la place pour lui donner une réponse.
C'est aussi votre démarche de vous être réapproprié ces psaumes, puisque vous avez composé à partir de psaumes, en remâchant un petit peu les mots à votre sauce. Quelle a été votre démarche artistique? Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette création?
Beaucoup l'ont fait depuis des millénaires, hein. Clément Marot, Théodore de Bèze. Bon, Clément Marot, il versifiait les psaumes. Théodore de Bèze,
c'est
il mettait
siècle.
De la musique. Et puis, ça continue. Pat Burning aujourd'hui, et même si on écoute « By the rivers of Babylon », bah ça, c'est le psaume 137 chanté par Bonnie M en disco.
Qu'est-ce que vous avez essayé de dire avec vos psaumes
Et donc, je reprends les psaumes, je les médite tranquillement. Ça peut prendre deux jours, des fois deux semaines, des fois deux mois. Je les réhabite, je reçois toute cette parole et surtout celle qui me dérange, parce que souvent c'est la parole qui dérange, qui va nous donner à vivre quelque chose, à découvrir une pépite. Et puis après je mets des accords. Et avec les accords, je suis pas très bon en musique, mais sachez que quand David y jouait de la musique avec ses moutons derrière, ça devait plus ressembler à ce que je fais qu'au London Philharmonic Orchestra. C'est-à-dire qu'en fait, il avait sa lyre, crat, 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 et voilà. Et on met de la musique sur les paroles de telle façon que c'est tout son corps, toute son âme, toute sa pensée, tout s'exprime dans le chant. Le Seigneur est un et nous aussi. Voilà.
Eh bien, je vous propose de découvrir ces psaumes que vous avez préparés en musique et puis de nous conduire aussi dans la méditation de trois différents psaumes. Et je vous propose de commencer par le psaume 103, d'abord avec le texte original de la Bible et ensuite votre adaptation en musique et votre commentaire.
Psaume 103 de David. Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, que je n'oublie aucune de ses œuvres. Lui qui pardonne tout ton tort, qui guérit toutes tes maladies, lui qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de fidélité et de miséricorde, lui qui rassasie de bien ta parure, tu retrouves la jeunesse de l'aigle. Le Seigneur agit avec rectitude, il dit le droit pour tous les opprimés. Il révèle ses voies à Moïse et ses actions aux fils d'Israël. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et abondant de fidélité. Il n'incrimine pas à perpétuité, il ne garde pas rancune pour la durée. Il n'agit pas envers nous selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Bénissez le Seigneur, vous, ses messagers, héros, forts, accomplissant sa parole, afin d'écouter la voix de sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous ses œuvres, en tout lieu, sur lequel il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu. Que tout en toi bénisse son nom, comme un seul homme ouvre les yeux et n'oublie aucun de ses dons. Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu. Si tu hésites, quelle qu'en soit la raison, regarde à son shalom miséricordieux et adresse-toi à son pardon. Mais je ne sais, Seigneur, par où commencer. Faut dire que je n'ai jamais imaginé prier, pas vraiment, comme on dit croyant, pourtant baptisé. Confirmer tout le Bataclan, mais voilà qu'un commencement surgit dans le tohu-bohu de la vie. Dieu dit, allions nos bénédictions, et Dieu vit que cela était bon. Alors ma pomme, bénis ton Dieu, que tout en toi bénisse son nom, comme un seul homme ouvre les yeux et n'oublie aucun de ses dons. Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu. Si tu hésites, quelle qu'en soit la raison, regarde à son shalom miséricordieux et adresse-toi à son pardon. Balbutiant ma prière. À l'époque, moi je croyais que c'était un indicatif. Mon âme est en train de bénir l'Éternel. Mais en fait, pas du tout. Depuis, j'ai fait des études de théologie qui m'ont fait découvrir que c'est un impératif. Mon âme, bénis. T'as pas le choix, bénis l'Éternel. Parce que en hébreu, contrairement en français, on peut conjuguer l'impératif à la première personne du singulier. En hébreu, on peut se donner un ordre à soi-même. Quelque chose comme, je sais pas, vas-y mon âme, bénis l'Éternel. Et alors pourquoi se donne-t-il cet ordre? Parce qu'en fait, le gars, il n'est pas du tout enclin à bénir. Son état présent le conduirait plutôt à médire, à râler, à faire la grève de la prière, avec toutes les crises, qu'elles soient personnelles, sociétales, écologiques, migratoires, spirituelles, et j'en passe, toutes ces crises que nous vivons. Je n'ai pas du tout envie de bénir le Seigneur. Mais voilà qu'un souffle vient en lui, lui demande de bénir l'Éternel. Non pas qu'il serait devenu schizophrène, mais notre psalmiste laisse parler le souffle en lui qui le conduit à bénir, c'est-à-dire dire du bien, envers et contre tout. Et il choisit de se laisser porter par ce souffle. Et si vous méditez la suite du psaume, vous verrez que toute sa vie va en être changée. Sa vie contrariée et solitaire à tel point qu'il va se découvrir une assemblée autour de lui à la fin du psaume qui poursuit alors à la deuxième personne du pluriel. En plus, moi quand j'entendais mon grand-père dire « mon âme », ça m'étonnait. Ça fait un peu pédant, vous savez, l'âme, ça plane un peu. Or, si Dieu s'est littéralement tué à s'incarner en Jésus, c'est pas pour que nous le désincarnions avec des âmes en suspension au paradis. Jésus est la parole de Dieu qui dit notamment la beauté de notre vie tout entière et réelle. Même si c'est vrai que des fois, j'aimerais bien être délivré des limites, notamment de mon corps, qui vaut ce qu'il vaut. Et alors en plus, le mot qu'utilise le psalmiste, c'est nefesh. Nefesh, qu'on traduit par mon âme. Mais en fait, ça signifie toute la personne. Mon âme, certes, mais aussi mon corps, mes poignées de main, mes poils, mes pensées, mes rêves, mes échecs, tout. Nefesh est un mot complètement intraduisible en français, à moins d'utiliser l'argot en disant ma pomme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai traduit ce psaume 103, la première phrase, en disant « Vas-y ma pomme, bénis ton Dieu », sur une mélodie joyeuse, décomplexée et reconnaissante.
Je vous invite à poursuivre ce parcours autour des psaumes avec maintenant le psaume 84 que vous allez nous lire et nous vous entendrons l'interpréter en musique avant d'avoir votre petit commentaire, votre méditation sur ce psaume.
Du chef de chœur sur la guittite pour les fils de Corée. Psaume. Comme elles me sont si intimement chères tes demeures, Seigneur. Les parvis du Seigneur, je les désire si ardemment, même si je suis à bout. Mon cœur et mon cœur laissent éclater leur joie vers le Dieu vivant. Même un oiseau se trouve une maison, un autre se construit un nid pour accueillir sa couvée et tes autels, Seigneur, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui élisent domicile dans ta maison, ils te loueront encore et encore. Heureux l'homme qui trouve sa force en toi, qui ouvre des routes dans son cœur. Ceux qui traversent la vallée des micocouliers en larmes érigent une source nouvelle. Sur eux ruisselle un déluge de bénédictions, et ainsi vivifiés, ils marcheront vers la vie, et tu te présenteras devant Dieu à Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Regarde, ô Dieu, notre bouclier, et vois le visage de ton Christ. Oui, comme c'est bon, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de demeurer dans les tentes de la malveillance. Car le Seigneur est un soleil et un bouclier. Dieu donne la grâce et la gloire. Il ne prive pas de bonté ceux qui marchent sans réserve. Le Seigneur proclame « Heureux l'homme qui a foi en toi ». Un pied posé sur le seuil de tes demeures, Seigneur, je me recueille, j'y pose mes deuils et mes orgueils. Quand un fils de Corée m'accueille, j'ai dû finir sur les rotules. Je suis fourbu, Seigneur, je capitule. Je suis dans la vallée des larmes sous la canicule. J'ai tant désiré ce culte. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, que toute une vie. Même l'oiseau demeure un instant dans son nid. Un jour, sur tes parvis, vaut mieux que mille ailleurs, que toute une vie. Quand tu regardes, Seigneur, au visage du Messie. Au Christ debout sur le
La tranche de vie dont témoigne le psaume 84
est celle d'un homme qui va se rendre un dimanche matin à la messe ou au culte, comme certains d'entre vous ce matin, pour consacrer un instant à Dieu, qui lui-même va consacrer un instant à nous-mêmes. L'un et l'autre marchent vers cette rencontre. Et notre psalmiste, bon, comme c'est un Hébreu, il marche vers le temple de Jérusalem. Il marche à travers la vallée dite de Baca. Baca, c'est un arbre méditerranéen qu'on appelle le micocoulier. Mais le terme en hébreu signifie aussi les larmes, les pleurs. Si bien qu'on ne sait s'il faut traduire par la vallée des micocouliers ou bien la vallée des larmes. Et cette incertitude est voulue par notre poète qui était de l'âge de fer. On réalise alors que le psalmiste que je suis arrive au culte ou à la messe complètement sur les genoux, après avoir traversé la vallée des larmes, exténué par la semaine qu'il vient de vivre et angoissé par celle qui s'annonce. Et pourtant, écoutez sa joie, celle d'être sur le seuil, d'être parvis du Seigneur. Juste le seuil, Seigneur, je n'en demande pas plus. Je n'oserais pas m'aventurer dans ton saint dessein. Non, juste le seuil, ça me suffit. Et il reste donc avec respect sur ce seuil, accueilli par le chant des fils de Corée. Alors les fils de Corée sont au temple de Jérusalem, ce que, par exemple, les gardes suisses sont au Vatican ou la garde républicaine pour l'Élysée, vous voyez. Voilà cette tranche de vie que nous raconte notre psalmiste. Et ce n'est pas fini. Debout, sur les seuils des parvis du Seigneur, le psalmiste a cette prière incroyable. Regarde, ô Dieu, et là je cite explicitement le psaume. Regarde, ô Dieu, et vois le visage de ton Machia, de ton Messie. Messie, c'est un mot hébreu qui se dit en grec Christ, celui qui a reçu l'onction. Je viens au culte pour te rencontrer, Seigneur. C'est là ma part. Mais ne regarde pas à moi, regarde à ton Christ qui m'habille et reçois-moi dans ton temple. Paul dira quelques siècles plus tard aux paroissiens de Rome, revêtez le Christ. Ce Christ, c'est le regard impossible de Dieu sur moi. Ce Christ se tient sur le seuil, avec moi, si bien qu'on pourra même l'appeler Dieu avec nous, Immanuel. En se mettant nu devant nous, il nous invite à nous mettre à poil devant Dieu, comme Adam et Ève au premier jour. Et ça fait du bien, ça fait tant de bien, d'arrêter un instant de faire semblant, juste être qui je suis. Et chacun de nos cultes commence d'ailleurs par la proclamation de la grâce de Dieu qui nous accueille. Et chacun d'eux termine par la bénédiction d'Aaron. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Ce Messie, ce Christ, c'est notre tenue correcte exigée. Grâce à lui, nous allons pouvoir recharger nos batteries, nos prières, sans aucune retenue, sans complexe. Être vrai un instant, être vrai jusque dans la repentance. C'est ça la repentance. Ce n'est pas égrener des péchés plus ou moins homologués dans une liste, mais arrêter de vouloir être un autre, avoir le courage d'être, comme dit Paul Ricoeur. Parce que je sais que j'ai revêtu le Christ. Pensez-y dans vos prières. Ce Christ chante mon psaume avec moi, à Dieu. Ce Christ est le psaume de l'homme, à Dieu. Il est le psaume de Dieu, à l'homme. Saint Augustin disait que le psautier est tout entier enceint du Christ. C'est d'ailleurs une des rares fois où on arrive à décliner l'adjectif enceint au masculin. Enceint du Christ, Jésus-Christ est mon seul et unique psaume.
Et je vous propose de finir ce parcours musical autour des psaumes avec le psaume 16 que nous découvrons dans votre lecture.
Mictam de David. Garde-moi, ô Dieu, en toi est mon abri. Tu dis au Seigneur, Adonai, tu es bon pour moi, rien n'est au-dessus de toi. Dieu dit, les saints qui sont sur la terre sont d'une beauté pleine de mon désir d'eux. Quant aux autres, Leurs tourments prolifèrent, ils sont dépassés. Jamais je ne verserai leur libation de sang, jamais je n'aurai leur nom sur mes lèvres. Le Seigneur est ma part et ma coupe. Tu saisis mon sort. La mesure qui m'échoit est un plaisir. Me voilà nanti d'un patrimoine magnifique. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même les nuits m'enseignent viscéralement. Le Seigneur est sans cesse en face de moi, ainsi qu'à ma droite. Je ne vacille donc pas. Mon cœur se réjouit alors, mon honneur est aux anges, et mon corps hors de danger. Tu ne m'abandonneras pas dans le Shéol, tu ne laisseras pas celui qui t'est attaché voir la tombe. Tu me fais connaître le chemin de la vie, rassasié de joie, communiant avec ton visage, à ta droite, dans un bonheur sans fin. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. J'ai trouvé un trésor, son regard vaut de l'or. Le Seigneur est mon sort, ma coupe pleine à ras-bord. Garde-moi, ô Dieu, en toi seul mon abri. Rien n'est si précieux que les sentiers de ta vie. Leurs honneurs obséquieux ne sont rien à mes yeux. La mort est un non-lieu prononcé par notre Dieu. Là encore, une tranche de vie, mais une vie du 21e siècle, la nôtre. Figurez-vous, j'ai découvert ce psaume grâce à une femme qui m'appelle alors que j'étais en train de descendre une piste de ski. Le téléphone sonne. Zut, il faut que j'enlève mes moufles. Et là, il y a une voix qui me dit « Bonjour monsieur le pasteur, je voudrais être baptisé ». Et des fois, Dieu brusque nos réticences. Parce que là, vraiment, c'est que de la grâce. Je n'ai rien fait d'autre que d'enlever mes moufles en maugréant dans ma tête. Mais le Seigneur est têtu. Alors nous fixons une date pour un rendez-vous. Et à la fin de la première rencontre, où nous avons médité ensemble l'histoire du fils prodigue, je lui propose de parcourir le livre des psaumes et d'en choisir un, celui qu'elle veut. Nous nous retrouvons 15 jours plus tard et elle me montre ce psaume 16 que nous venons de lire. Elle me dit « C'est ce psaume que je veux pour mon baptême. » Il est calme, il est confiant, il est magnifique de foi. Elle a été baptisée un dimanche de Pâques. Et je lui ai composé ce chant que j'ai appelé « Le Lore » parce qu'elle s'appelle Lore. Beaucoup de psaumes commencent par « Le David », ce qui signifie « De David ». Mais ça peut aussi vouloir dire « À David ». Alors. En plus, ça tombe bien, figurez-vous que ce psaume a sûrement été composé par une psalmiste. D'ailleurs, même mon traitement de texte me souligne une psalmiste. Comme si même en 2020, pour les traitements informatiques, il était impossible qu'une femme puisse composer et chanter des psaumes. Eh bien, détrompez-vous. Lorsque l'auteur dit au verset 2 « Tu dis au Seigneur, Adonai, tu es bon pour moi », eh bien, le « tu dis » est conjugué à la deuxième personne du féminin. Oui, l'hébreu a aussi cette capacité de distinguer la conjugaison de la deuxième personne du singulier au masculin ou au féminin. Ce n'est pas la même terminaison. Et lorsque l'auteur dit « tu dis », en fait, il se parle à elle-même, on va dire. D'ailleurs, beaucoup de Bibles traduisent par « je dis ». Moi, quand je chante le psaume 16, je pense au baptême de cette femme qui n'avait jamais lu la Bible et qui a tout compris grâce à ce psaume. Et qui de plus, mais ça je ne lui ai pas dit, a reconverti le pasteur que j'étais censé être. Le psaume 16 est unique. Il est celui que Jésus a pu chanter en sortant du tombeau. Vous savez, au moment interdit, ce moment dont tout le monde parle, mais que personne n'a jamais vu, un moment entre Dieu et Dieu. C'est un psaume qui dit l'instant précis de la résurrection. Certains ont vu le tombeau plein, d'autres ont vu le tombeau vide, mais personne n'a vu l'instant où Jésus se lève et se dirige vers la sortie du tombeau et sort encore en plissant les yeux à cause de la lumière. Écoutez plutôt les derniers mots de ce psaume 16. Tu ne m'abandonnes pas dans le Shéol. Le Shéol, c'est un mot qu'il faut éviter par traduire par enfer. L'enfer est trop peuplé d'imagerie depuis. L'enfer, c'est juste, pour l'hébreu qui écrit ce psaume, un monde sans Dieu. Il n'y a rien de pire. Ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Tu ne m'abandonnes pas dans le Shéol. Tu ne laisses pas celui qui t'est attaché voir la tombe. Tu me fais connaître le chemin de la vie, rassasié de joie, communion avec ton visage, à ta droite, dans un bonheur sans fin. En conclusion, chantez les psaumes. Il y en a 150, et même 151 depuis la nouvelle traduction écuménique de la Bible. Et terminons en prière. Seigneur, que je sois l'instrument de notre chant, le tien, le mien, le psaume. Donne-moi de les découvrir, de ne pas m'arrêter à la première lecture, dans ces moments où je me dis, c'est un peu toujours pareil, avec des ennemis, la fosse. Non, donne-moi de manger les psaumes, comme du pain, comme du vin, vivant, de communier avec cette parole, qui ne prend pas de gants, qui prie, qui chante avec toi, de tout notre cœur, de toute notre âme, et de toute la force de nos cordes vocales. Amen.
Merci beaucoup Daniel Schrumpf d'avoir été avec nous sur le service protestant. Je rappelle que vous êtes pasteur de l'église protestante Unie de France à Sèvres, Meudon, ville d'Avray. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Bories. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Alain Joubert pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour écouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant-au-pluriel.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant « Service protestant ». Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivi à 9h10 de Talmudic, présenté par Marc-Alain Wacknin. Et je vous retrouve à 16h pour les conférences du carême protestant. Bonne journée sur France Culture.